Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore une fois d'être présent à ce débat, d'être présent à cette fête. Ce que je vous propose, c'est que je vais dire quelques mots d'introduction sur la situation générale qui concerne le monde du travail, qui concerne nos problèmes, et puis après on pourra passer au débat, à débattre entre nous, à se critiquer, à faire des remarques, à dire nos accords et nos désaccords, enfin bref, à parler à cœur ouvert. Voilà, on est entre nous, il ne faudra pas hésiter. Je vais commencer par parler de l'Algérie. Vous savez que hier, il y a encore eu une très très grande journée de mobilisation et de manifestation. Plus d'un million, d'après la presse, de manifestants qui ont défilé dans les rues de différentes villes. Ce qui se passe, on regarde de près évidemment de ce qui se passe là-bas en Algérie, parce que nos deux pays ont une histoire commune, malheureusement, avec les 132 années de colonisation de la France. Et aussi, nous disons que nos camarades algériens ou d'origine algérienne qui sont installés ici en France, on participe au fonctionnement de l'ensemble du pays, l'ensemble de la société. C'est nos frères de classe et on est exploités tous ensemble. Et donc on a des intérêts communs, évidemment, par-delà la Méditerranée, par-delà les frontières, on a des intérêts communs à défendre. Ce qui se passe là-bas, il faut bien voir que bon, c'est le démarrage de ces mobilisations, ça a été le pouvoir algérien, la clique au pouvoir qui a annoncé le maintien de Bouteflika pour un cinquième mandat, ce qui a déclenché toutes ces manifestations. Mais il faut bien comprendre que derrière cette annonce qui a déclenché ces manifestations, il y a ce que les manifestants appellent là-bas la mal-vie. La mal-vie, ben c'est les conditions de vie qui sont lamentables, qui sont extrêmement dures de toute la population laborieuse. C'est le chômage évidemment énorme qui touche tous les travailleurs, surtout les jeunes, diplômés ou pas. Et puis c'est les salaires qui sont dramatiquement bas. C'est les services publics qui sont inexistants, c'est la corruption. Bref, il y a toutes les raisons pour que la colère s'exprime de la part de la mobilisation. Alors, on est évidemment de tout cœur avec eux, mais au-delà de ce qui peut se passer, là vous avez vu que l'armée a lâché Bouteflika, ça ne veut pas dire que l'armée est devenue l'ami des travailleurs et des travailleuses algériens. C'est au contraire sans doute un moyen que l'armée a trouvé pour lâcher Bouteflika, pour essayer de trouver une solution. La solution pour l'armée et puis pour le pouvoir en place, c'est de trouver quelqu'un qui pourrait remplacer Bouteflika, et quel qu'il soit, ce remplaçant, de toute façon, il continuera la même politique, c'est-à-dire de défendre les intérêts des riches algériens, de la bourgeoisie algérienne, et surtout défendre les intérêts fondamentaux de l'impérialisme français, qui a énormément d'entreprises là-bas en Algérie, mais aussi qui pille à sa manière les richesses de l'Algérie. Vous savez que l'Algérie, c'est un pays extrêmement riche, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des minerais, et c'est ça qui est écœurant, qui est scandaleux et qui est révoltant, c'est que c'est un pays extrêmement riche où la population vit quand même dans des conditions de vie qui sont révoltantes. Alors aujourd'hui, en France, on a le mouvement des Gilets jaunes. Là, on change peut-être un peu de mesure, mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire qui a démarré depuis le 17 novembre. Ça commence à faire, hein, comme on dit. C'est un mouvement qui est visiblement déterminé, qui continue chaque samedi, qui prend ses racines dans toute la conséquence des différentes politiques gouvernementales et patronales ces dernières années. C'est le vivre dignement. Le mouvement des Gilets jaunes ont eu comme côté extrêmement positif d'avoir réussi à placer au cœur du débat la question essentielle, non seulement du pouvoir d'achat, mais de vivre dignement de son salaire, vivre dignement de sa pension de retraite et vivre dignement tout simplement dans une société, dans un pays aussi riche que la France. Pour nous, le grand débat organisé par Emmanuel Macron est une mascarade, a été une mascarade, il en sortira strictement rien du tout, ne va résoudre aucune des revendications du mouvement des Gilets jaunes et surtout pas s'allier au pouvoir d'achat. Pour nous, commencer à régler la question du pouvoir d'achat, c'est d'abord et avant tout d'augmenter les salaires, d'augmenter les allocations et d'augmenter les pensions de retraite. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra s'attaquer au profit des grandes entreprises. Il faudra s'attaquer à cette dizaine de milliards qui sont accumulés chaque année, record battu, pour financer les augmentations de salaire, mais pas simplement pour financer tout ce qui pourrait améliorer la vie des travailleurs. Alors, on vit dans une société qui est un pays qui est une des plus grandes puissances mondiales économiques, et il se trouve que dans tous les secteurs de l'activité, dans toute la vie du pays, ça craque de tous les côtés. Quand on regarde, évidemment, au niveau des salaires, je fais pas trop long là-dessus, ça fait des années et des années que les salaires sont bloqués, ça fait des années que les retraités ont des pensions de retraite qui sont complètement misérables et que l'État continue à fonctionner. Les pensions d'invalidité, on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas vivre avec le SMIC, bref, on ne peut pas vivre des revenus qu'on a. Mais ça craque aussi du côté, par exemple, de tous les services publics, du côté de la santé. Quand on regarde le personnel de santé qui est en sous-effectif permanent, les hôpitaux qui sont gérés maintenant comme des entreprises privées où il faut faire de la rentabilité, puis il faut faire du profit sur le dos d'abord et avant tout du personnel de santé et puis évidemment de tous les patients. Ça craque du côté de l'éducation nationale où là on a Blanquer qui porte une attaque très brutale sur l'ensemble du personnel éducatif. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez dans le débat, mais c'est toujours le même but, c'est faire des économies sur le dos des enseignants, sur le dos de l'éducation nationale. Évidemment, c'est d'abord et avant tout le personnel de l'éducation nationale qui vont pâtir, mais c'est aussi les élèves, nos gamins qui vont en pâtir. Bref, je parle même pas des EHPAD où ça craque de tous les côtés. On est dans une situation où on vit dans une société qui est extrêmement riche, mais toutes les richesses sont accaparées par une minorité. Une minorité qu'on connaît bien, finalement. Certains noms sont très populaires, c'est la famille Peugeot, la famille Peugeot, c'est les Bettencourt, c'est les Dassault, c'est les Bernard Arnault, c'est tous ces gens-là, toutes ces familles bourgeoises qui s'accaparent toute la richesse que l'on produit dans toutes les entreprises du pays, et qui s'accaparent pour elles, pour s'enrichir encore plus. Alors, la bourgeoisie nous mène une guerre, nous mène des attaques très brutales, se comporte comme un rouleau compresseur dans toute la société, sur toute la société, et bloque en fait le fonctionnement de toute la société. On est dans une période de crise économique qui date depuis les années 70, mais qui s'empire chaque année, et on a des périodes qu'on a connues en 2008, où on a vécu des krachs boursiers, où la crise économique, en fait, elle s'aggrave, et c'est où toute la société qui en pâtit. Mais cette crise économique a ce côté désastreux, a ce côté dramatique, c'est que pour les capitalistes, pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils continuent à dégager des marges, pour qu'ils continuent à dégager des profits, des bénéfices, ils se mènent une guerre entre eux, déjà. Ils se mènent une guerre entre eux en France, mais ils se mènent une guerre entre eux à l'échelle internationale. Ils sont soutenus par leurs États. On entend souvent parler maintenant Trump et les États-Unis qui mènent la guerre commerciale contre l'Europe, qui mènent la guerre commerciale contre la Chine. C'est pas étonnant. C'est que quand le gâteau se réduit, eh bien, pour que chacun y trouve sa part et avoir la part la plus grosse, ils sont obligés de se mener une guerre. Ça se traduit très concrètement, c'est au nom de la compétitivité, au nom de la rentabilité, eh bien nos patrons licencient, suppriment des emplois, ferment des entreprises, bloquent les salaires, réduisent nos droits collectifs, parce que pour eux, il n'est absolument pas du tout question que cette guerre commerciale se fasse en rognant leurs profits, en rognant sur leurs dividendes. Ils ont une autre politique, une autre feuille de route, c'est de s'attaquer, c'est de faire cette guerre sur notre peau, avec notre peau et sur notre dos. Et ça, c'est une situation qui s'aggrave d'année en année. Une autre manière qu'ils ont de continuer à faire du profit, de continuer à s'enrichir, c'est quand ils dégagent des bénéfices, quand ils dégagent des centaines de millions de bénéfices, eh bien, pour une très grande partie d'entre eux, ils sont investis dans la spéculation, dans ce gros casino mondial qui est la spéculation, la bourse mondiale. Et on spécule sur, enfin, ils spéculent, parce qu'on ne spécule pas, nous, ils spéculent sur tout et n'importe quoi. Ils se rachètent des parts d'entreprise, ils en vendent en fonction du niveau de la bourse, etc. Le problème, c'est que c'est un jeu extrêmement dangereux, et on l'a vécu en 2008, avec toutes ces bulles spéculatives qui, à un moment donné, explosent. Elles explosent, alors ils en font en partie, ils en font les frais. Je rappelle, en 2008, il y a une des plus grandes banques américaines qui a fait faillite, c'était la banque Lehman Brothers. Voilà, elle a plongé, elle a chuté du jour au lendemain, elle a fermé, et elle a entraîné derrière elle une catastrophe boursière, une catastrophe économique. Et on est aujourd'hui suspendu, réellement suspendu, c'est ça qu'il faut prendre conscience, suspendu à un nouveau krach boursier, à une nouvelle aggravation de la crise économique. C'est-à-dire que, par leur fonctionnement, à cause du capitalisme, de fait de l'organisation économique de la société, les capitalistes, les bourgeois, emmènent toute la société dans le mur. Et il est là le problème. Et c'est que personne ne les contrôle, ils sont complètement incontrôlables. Alors, on vit sous une crise économique, il y a une crise sociale, mais y compris, il y a une crise écologique. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, notamment les jeunes ont défilé dans les rues pour sauver la planète, ils ont mille fois raison, et tous les experts, les chercheurs, les scientifiques nous expliquent que si on continue à produire de cette manière-là, de cette façon-là, la planète, on ne pourra même plus la récupérer. Alors, qui est responsable là-dedans ? On pourra en discuter dans le débat après, si vous voulez. Mais ceux, pour nous, ceux qui sont responsables de cette situation, c'est ceux qui sont aux commandes. C'est les bourgeois, c'est les capitalistes. Et c'est là où nous, on pense que la classe ouvrière, elle a les moyens d'intervenir. Alors, je dresse peut-être un tableau pessimiste et noir. Certes, il est pas reluisant. Pour notre part, on est convaincu qu'on est quand même dans un tournant où, d'un moment ou un autre, on peut plonger dans une crise économique extrêmement grave, avec fermeture d'usines, etc. Et là, il y a de l'espoir, c'est ça que je veux dire. L'espoir, il est quoi ? Nous, on mise sur les luttes de la classe ouvrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une telle situation, là, si on regarde simplement la France, bon, on a le mouvement des Gilets jaunes, vous voyez que la principale réponse d'Emmanuel Macron, ça va être de mettre en route sa nouvelle attaque sur le régime des retraites, de passer le départ de 62 ans à 65 ans. Pour vous dire la réponse, qui n'est pas du tout une réponse à la mobilisation des Gilets jaunes, c'est encore une fois pour baisser encore plus les pensions de retraite, et puis ça va encore aggraver le chômage. Une telle situation, de telles décisions politiques, et une telle politique de l'ensemble du grand patronat, de toute façon, ça peut générer que des mouvements sociaux. Ça peut générer que de nouvelles mobilisations, que de nouvelles contestations. La mobilisation des Gilets jaunes, c'en est une parmi d'autres. Alors nous, on mise sur celle de la classe ouvrière. Pourquoi ? Parce que les travailleurs, ils sont au cœur du système. Ils sont au cœur de la société. Ils sont au cœur de la bête, comme on dit. C'est là où se créent les richesses. C'est là où se fabrique le profit, où se fabriquent les dividendes. Et le monde du travail, au sens très large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs, tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, leur allocation, donc ça fait beaucoup de monde, et leur retraite, ça fait beaucoup de monde quand vous additionnez tout ça, c'est nous qui fabriquons, qui ont fabriqué les richesses de ce pays. Et c'est là où on peut mobiliser, en étant unis, en étant organisés, en ayant conscience de nos intérêts, c'est seulement là où on peut peser sur les décisions des gouvernements, du pouvoir politique, mais aussi sur les décisions du grand patronat. Si on parle du mouvement des Gilets jaunes, manifester le samedi, c'est bien. Occuper les ronds-points, c'est bien. C'est une contestation. Et à partir du moment où il y a une contestation dans la société sur un terrain social qui nous est favorable, qui nous est commun, ça peut être que positif. Maintenant, ça ne suffit pas. Les grands patrons, la famille Peugeot, les Bettencourt, les Bernard Arnault, ils ne craignent pas l'occupation des ronds-points. Ils ne craignent pas les manifestations du samedi. Ce qu'ils craignent, ce serait qu'on leur occupe leurs usines, ce serait qu'on leur occupe leurs banques, leurs entreprises, quelles qu'elles soient. C'est ça qui leur poserait un énorme problème sur les bras, parce qu'ils vivent de notre travail. Si à partir du moment où on occupe les usines, dès la grève, un nouveau mai 68, un nouveau juin 36, c'est là où on serait en capacité d'imposer nos conditions à travers un rapport de force qui nous serait favorable, en faisant du chantage. Comme eux, ils font du chantage quand ils veulent nous imposer des reculs sociaux importants sur nos droits collectifs. C'est ça, ou un plan de licenciement ou une fermeture d'usine. On en parlait tout à l'heure avec la Smart. Vous vous souvenez, la Smart, il y avait eu ce fameux référendum, je m'éloigne un petit peu, mais il y a eu ce fameux référendum pour casser les 35 heures et faire passer tous les ouvriers à 40 heures, sinon c'était la fermeture de l'usine. Et aujourd'hui, l'usine, elle est en train d'être vendue, voire peut-être même fermée. Donc c'était pour faire accepter des reculs importants, pour faire encore plus de profit. Donc ça, c'est du chantage, c'est le chantage patronal. Ben nous, il faudrait que du côté des ouvriers, du côté des travailleurs, on impose l'autre chantage face au patron. C'est imposer nos conditions, sinon il n'y a rien qui tourne. Et c'est ça la solution. Alors pour ça, on est bien conscient, on fait le même constat que on n'en est pas à ce niveau de combativité, on n'en est pas à ce niveau de conscience. Mais on défend, et justement on se présente aux élections européennes pour parler de ça et pour populariser justement cette idée fondamentale que c'est pas les élections qui peuvent changer la vie des travailleurs, c'est les luttes collectives des travailleurs qui peuvent changer leur vie. C'est comme ça qu'on peut peser sur les décisions et peser sur les événements. Mais pour ça, il faut que les travailleurs aient conscience de leurs intérêts et qu'ils aient conscience contre qui ils doivent se battre. On l'entend beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes, Macron démission. On l'entend, c'est assez naturel. Macron, c'est le président de la République. C'est lui qui est le principal responsable des grandes parties des attaques contre la classe ouvrière. Donc c'est assez naturel de demander sa démission. C'est aussi relayé par pratiquement par tous les partis, tous les politiciens de droite comme de gauche, mais on entend souvent du côté de Jean-Luc Mélenchon le responsable de la situation, c'est le macronisme, c'est la Macronie. Ça sous-entend quoi cette idée? Ça sous-entend que si on virait Macron, si Macron y démissionnait, ça serait une solution pour les travailleurs. C'est une manière de proposer aux travailleurs un objectif pour lequel ils doivent lutter. Et bien nous, on ne défend pas cet objectif-là. Souvenez-vous, on nous a fait exactement le même coup avec Sarkozy. Sarkozy, sa politique, elle était vomie. Lui, il était écœurant à tel point que certains responsables politiques pointaient aussi le sarkozisme, Sarkoland. C'était Sarkozy, de toute façon, on ne pouvait pas trouver pire que Sarkozy. Voilà. Et puis, il y a eu Hollande. Et Hollande, on l'a pris en pleine poire. Voilà. Il a mené exactement la même politique que Sarkozy, pas tout à fait exactement. Il l'a mené d'une manière un peu plus brutale et un peu plus grave. Voilà. Et puis, vous savez, Hollande, c'était mon ennemi, c'est la finance. C'est là-dessus qu'il s'est fait élire. Bon, c'était tellement son ennemi, la finance, qu'il a pris, dès le premier jour, Macron comme principal conseiller à l'Élysée. Et puis après, on a eu Macron comme président de la République. Bon. Ça veut dire que, pour nous, c'est pas le macronisme qui est responsable de la situation dans laquelle on est. C'est le capitalisme. Et ceux qu'il faudrait dégager, c'est pas Macron, c'est les capitalistes, c'est les bourgeois. Quand vous regardez, par exemple, Nicolas Hulot, quand il a démissionné en octobre dernier, la raison essentielle pour laquelle il a démissionné, c'est qu'il pouvait pas faire. Il était ministre d'État, il était numéro 2 du gouvernement. C'était pas un petit strapontin qu'il avait. C'était quelque chose de costaud dans le gouvernement. Il a démissionné, il a fait cet aveu. C'était peut-être le seul moment de sincérité quand il a parlé comme ça, qu'il avait en face de lui des lobbies qui étaient plus importants que lui, qui étaient énormes. Oui, il pouvait, lui, en tant que ministre d'État, ne rien faire. C'était qui, ces lobbies? C'était le lobby du nucléaire, les actionnaires d'Areva. C'était le lobby des industriels du plastique, le lobby des industriels de l'automobile, de l'industriel des pesticides et compagnie. Ça veut dire que les représentants de ces entreprises industrielles sont bien plus forts que la voix
l'activité d'un ministre d'État. Parce que, tout simplement, je ne sais pas le mot ici, s'il est juste, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre, c'est que les vrais responsables de la politique du gouvernement, c'est pas Macron, c'est pas les ministres qui font la pluie et le beau temps. Ce sont les conseils d'administration des grandes entreprises. C'est justement les représentants des Bettencourt, des Bernard Arnault et compagnie. Voilà. Bernard Arnault, si on veut parler simplement de lui, c'est un cas d'école. Bernard Arnault, l'année dernière, il a gagné 3,5 milliards d'euros. 3,5 milliards d'euros. Sa fortune personnelle a augmenté de ça. C'est, en quelque sorte, un smicard. Un smicard un peu spécial. Il a gagné un smic toutes les 20 secondes. Un smic toutes les 20 secondes. Trois smics à la minute. C'est ça que ça veut dire. Je peux vous assurer que quand le représentant de Bernard Arnault décroche le téléphone dans le bureau de Macron ou dans le bureau d'un ministre, ça pèse bien plus que n'importe quel syndicaliste, si jamais un syndicaliste avait le numéro de Macron, de toute façon. Le pouvoir, il est là. C'est eux qui détiennent le pouvoir. C'est ces grandes familles bourgeoises qui détiennent le pouvoir. Alors, il faut, que les travailleurs, que le monde du travail prenne conscience qu'au-delà, derrière Macron, qui est simplement un valet, simplement un serviteur, on pourrait dire que Macron, c'est le Benalla de Bernard Arnault, par exemple. C'est vraiment la réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut que les travailleurs ils prennent conscience qu'ils ont des intérêts spécifiques à défendre dans la société, dans la situation actuelle. Et dans la campagne électorale qu'on démarre, enfin, qu'on a déjà démarré depuis un moment, mais qu'on va continuer, qu'on va amplifier, il faut nous, ce qu'on se donne comme objectif, c'est de populariser un programme de lutte qui permette au monde du travail de se souder autour de lui et d'en faire le sien. Parce que quand vous écoutez les politiciens qui sont aujourd'hui qui se présentent aux élections, ils voudraient nous faire tomber dans le faux débat, dans le piège, sur « il faut rester dans l'Europe » ou « il faut sortir de l'Europe ». Si c'est ça le débat, c'est un faux débat. D'un côté, on va se retrouver du côté de Macron, ou alors de l'autre, on va se retrouver du côté de Mélenchon ou du côté de Le Pen, qui sont, du même côté. Que la France reste dans l'Europe, c'est les travailleurs qui vont payer. On va payer. Si la France devait sortir de l'Europe, c'est les travailleurs qui paieront. Il y a juste à regarder l'exemple de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, sous Thatcher et sous les différents gouvernements, la classe ouvrière anglaise a payé cher. Et là, elle est en train de payer la sortie, le Brexit, et elle continuera à payer une fois que la Grande-Bretagne, si jamais elle sort, une fois que la Grande-Bretagne a sa sortie. Parce que c'est jamais les capitalistes dans ces affaires-là qui payent le moindre euro. C'est nous qui payons à travers des licenciements, à travers le blocage des salaires, à travers le recul de nos droits collectifs. Donc nous, ce qu'on se propose de faire comme campagne électorale, c'est de défendre des objectifs de lutte, c'est de défendre un programme de lutte. Le problème qui est posé, la question des gilets jaunes qui ont posé en termes de pouvoir d'achat, nous on le traduit en tant qu'intérêt des travailleurs, on traduit, il faut d'abord et avant tout augmenter tous les salaires, augmenter toutes les allocations, augmenter toutes les pensions de retraite. Mais ça suffirait même pas. Il faudrait imposer à nos patrons, imposer à l'État que nos salaires, nos pensions de retraite augmentent en même temps que l'inflation, soient indexés à l'augmentation des prix. Parce que si on regarde simplement les gilets jaunes, ils ont obtenu, avec leur rapport de force, avec leur mobilisation, ils ont obtenu le gel pour un an, c'est déjà pas mal, ils ont obtenu le gel pour un an de l'augmentation de la taxe sur les carburants. Mais ça ne veut pas dire que le prix de l'essence a été bloqué. Après une courte baisse, il est reparti à la hausse, et on se retrouve avec le même prix du gasoil à la pompe que ce qu'il était le 17 novembre, le jour où ça a démarré, le mouvement des gilets jaunes. Ça veut dire que la solution pour notre pouvoir d'achat, à nous les travailleurs, elle est d'abord, un, de rattraper le retard que nos salaires ont pris, que nos pensions de retraite ont pris, ça c'est une évidence, et puis il faudra imposer ce système d'indexation de nos salaires par rapport à l'augmentation des prix. Parce que sinon, ça veut dire que c'est nous qui continuons à payer l'inflation. Et il n'y a aucune raison que ce soit nous qui continuons à payer l'inflation. n'y a aucune loi, il n'y a aucun principe qui dit que bah, c'est les travailleurs qui doivent payer. Pour nous, on ne doit pas payer cette affaire-là. Par rapport au chômage qui ronge toute la société, quand on regarde dans la région, il y a des fermetures d'usines qui sont scandaleuses, révoltantes, écœurantes, mais toutes les fermetures d'usines sont inadmissibles et sont injustifiées. En temps de crise économique, ça devrait être interdit de licencier des travailleurs ou de fermer une usine. En temps de crise économique, quand on licencie un travailleur, c'est comme si on balançait par-dessus bord un passager d'un bateau en pleine tempête, en pleine mer. C'est, nous, on l'assimile à un crime social. Parce que c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les travailleurs qui payent à coup de licenciement et à coup de suppression d'emploi. Et bien ça doit s'arrêter. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on défend comme idée, c'est ce qu'on défend comme revendication. Et puis, par rapport à tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises au niveau des entreprises et au niveau du pays, et c'est aussi une question qui a été posée par le mouvement des Gilets jaunes, une question légitime, quand ils ont commencé à poser le contrôle de l'argent public, l'argent de nos impôts, que les riches payent de moins en moins et que nous, on paye de plus en plus. Notre argent public, l'argent des impôts, c'est quoi son utilisation? Pourquoi c'est jamais pour augmenter les pensions de retraite? Pourquoi ça va jamais dans les services publics, dans la santé, dans l'éducation nationale? Pourquoi ça part dans les 40 milliards par an de crédits de CICE et d'aide pour toutes les grandes entreprises? Ben, c'est une question légitime. Et vouloir contrôler l'argent public, c'est tout autant légitime que vouloir contrôler l'argent privé. L'argent qui est dégagé, ces sommes colossales qui sont dégagées du travail de l'ensemble de la société, ces bénéfices, ces dizaines, ces centaines de milliards de bénéfices et de profits. Oui, il faudrait que les travailleurs posent leur contrôle, prennent le contrôle, mettent leur nez dans les comptes des grandes entreprises et contrôlent les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, vous allez me dire, et vous avez raison, je l'ai déjà dit, mais pour ça, il faudrait des grandes mobilisations. Il faudrait des mobilisations massives. Il faudrait un nouveau juin 36. Il faudrait un nouveau mai 68. On en est tous convaincus, on est tous d'accord. Et aujourd'hui, on n'est pas au niveau. Les travailleurs, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais justement, notre problème, il n'est pas de savoir quand est-ce que ça va démarrer. Un mouvement social, c'est comme une rivière qui déborde. On ne sait jamais quand ça va déborder, on ne sait jamais par où ça va déborder. Et l'autre problème, il n'est pas tellement là. Il n'est pas de savoir quand est-ce que ça va déborder, parce que ça ne dépend pas de nous. Qui aurait pu prévoir le mouvement des Gilets jaunes? Personne. Qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes? Il n'y a pas un parti politique, pas un syndicat, pas une association qui a démarré ce mouvement-là. Celui qui a démarré le mouvement des Gilets jaunes, il s'appelle Emmanuel Macron, quand il a annoncé l'augmentation de la taxe sur les carburants. Quand on regarde en Algérie, ce n'est pas un parti politique, pas un syndicat qui a démarré les manifestations. Ça a été l'annonce du pouvoir de faire rempiler le pauvre Bouteflika, là, qui... Le pauvre, il faudrait... Enfin, qui n'arrive même pas à dire bonjour. C'est cette annonce qui a fait déclencher cette irruption, parce que ça s'est passé réellement comme ça. Ça a été une irruption. Ça a été soudain. Voilà, ça a été plusieurs centaines, voire des millions d'Algériens qui sont descendus dans les rues. Parce que c'est toujours le pouvoir, c'est toujours les gouvernements, c'est toujours les patrons qui déclenchent les grèves, qui déclenchent les révoltes, qui déclenchent les révolutions. Notre problème, il n'est pas là. Notre problème, il est justement de populariser aujourd'hui, de faire prendre conscience qu'en tant que travailleur, on a des intérêts spécifiques à défendre et qu'on doit réfléchir sur les objectifs de lutte pour lesquels on devra se mettre en bagarre quand les travailleurs auront retrouvé confiance dans leur force collective. Je donne juste un petit exemple pour que ce soit plus concret. On pourrait assister à des grèves très importantes sur les salaires et décrocher des 100, des 200, des 300 euros d'augmentation. On sera content. On aura raison d'être content. On aura arraché ça. Mais si, 3 mois plus tard, il y a un krach boursier où tout s'écroule, on a une inflation à 15%, où on a des fermetures d'usines, où c'est des licenciements à tour de bras, nos 200 euros, ils vaudront quoi? Ils vaudront strictement rien du tout. Donc, notre boulot, c'est qu'il faut qu'on se prépare, c'est qu'il faut qu'on popularise des objectifs de lutte qui vaudront la peine d'être pour lesquels il faudra, il vaudra la, j'arrive pas à trouver la formule, mais ça vaudra la peine de se battre. Parce que se battre, c'est difficile, on le sait tous. C'est des sacrifices. C'est dans la tête que ça se passe et que ça arrive pas tous les jours, dès mai 68 ou dès juin 36. Rien qu'à voir les dates, de toute façon, on voit bien que c'est pas tous les jours que ça arrive. Et donc, quand ça va arriver, il faudra pas se louper. Pas se louper, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment se donner des objectifs qui valent le coup, et puis de pas se battre simplement contre Macron, de pas se battre simplement contre des ministres. Parce que la bourgeoisie, elle est pas bête. Elle a mis en place un système avec un certain nombre de paratonnerres. De paratonnerres qui puissent les protéger de la foudre sociale. Mettons qu'on ait un mouvement énorme, puissant, massif, déterminé. Bah, une des solutions de la bourgeoisie, c'est qu'Emmanuel Macron, il décrète la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça s'est vu dans l'histoire, hein, mai 68, c'est ça. De Gaulle, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, et hop, bon, c'est la fin de 68, c'est plus compliqué que ça, mais c'est une des solutions. Ou alors, c'est de faire sauter un ministre, comme ils ont fait sauter le préfet de police de Paris, là. Bah, ce sont des fusibles. Pour protéger le ministre de l'Intérieur, ils ont fait sauter le préfet de police. Bon, et ben, pour protéger Macron, ils peuvent faire sauter un ministre. Pour protéger la bourgeoisie, ils peuvent faire sauter Macron. Ça, c'est pas un souci pour eux. Donc, il faudra qu'on prenne conscience réellement contre qui on doit se battre. Bien sûr, on aura Macron en face de lui. Mais ce qu'il faudra voir, c'est pointer les vrais responsables, ceux de derrière. Et c'est pas étonnant qu'à Lutte ouvrière, on soit les seuls à en parler des capitalistes. On soit les seuls à parler du pouvoir de la bourgeoisie, des bourgeois. Parce qu'on est communiste révolutionnaire. Et là-dessus, il n'y a pas photo. On ne dit pas à Macron, dégage. Parce que ça veut dire tromper les travailleurs, consciemment, volontairement. Nous, ce qu'on dit, bah, c'est qu'il faudra à un moment donné ou à un autre que les travailleurs, ils dégagent les capitalistes, ils dégagent la bourgeoisie. Alors, ce que je voulais dire pour finir, c'est que avec ce qui se passe, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui se passe en Algérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a raison de garder confiance, cette confiance inébranlable dans la capacité des travailleurs à se mettre en bagarre, à se révolter, à manifester, à un moment ou à un autre, de dire « Stop, là ça va plus, on relève la tête, on retrousse les manches et on part à l'assaut. » On a raison de garder cette confiance parce que cette capacité des classes populaires à se révolter, elle est intacte. Même si ça fait assez longtemps qu'on l'a pas vu, réellement qu'on n'a pas vu les grands bataillons des usines, de toutes ces grandes entreprises descendre dans la rue, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ces bataillons-là. Mais ils vont se mettre en branle. Ils vont se mettre en bagarre. Encore une fois, nous, notre problème, c'est pas de savoir quand. Notre problème, c'est aujourd'hui quelle politique on doit proposer, quelle perspective on doit proposer à la classe ouvrière. Et à travers ces élections européennes, on va utiliser la campagne des élections européennes justement pour populariser des idées, des objectifs de lutte, une perspective qui soit utile aux travailleurs quand ils auront repris confiance dans leur lutte. Et ça, avec la politique qu'Emmanuel Macron va continuer à faire, avec la politique de nos patrons, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'auront pas le choix de continuer à faire des licenciements, de continuer à fermer des usines, de continuer à nous ponctionner, de continuer à nous diviser les uns contre les autres. Il y aura des mouvements sociaux. Il y aura des mobilisations. Il faudra que nous, on joue notre rôle pour que quand il y aura ces mobilisations, ça aille le plus loin possible, que la conscience, elle augmente le plus grand, le plus loin possible. C'est ça notre boulot. Et là-dessus, il y a largement de quoi avoir confiance dans Macron et dans nos patrons pour nous faire subir encore des sacrifices, des attaques. Et il y aura du répondant du côté de la classe ouvrière. Merci.